Je voulais absolument parler à un de mes amis ce soir dans le Journal de Montréal, dans la chronique de Marc Defoy. Bien, vous avez sûrement vu, parce que beaucoup de gens ont réagi au texte de Marc Defoy. Pas de négociation une fois la saison commencée pour Max Pacioretty. Mais le petit coin droit en bas, page 79. Bonne retraite, cher Duro. C'est Pierre Durocher, 43 ans au Journal de Montréal. Un bon bonhomme. Je tenais absolument à lui parler. Il est au bout du fil. Salut, Pierre.
Salut.
En forme, Pierre? T'es pas fatigué déjà? La retraite commence, là.
Non. Je suis pas fatigué, non. C'est une nouvelle étape dans la vie, mais je suis prêt pour ça, là. J'ai eu la chance d'avoir une carrière très bien remplie au Journal de Montréal. Puis là, maintenant, on va ralentir un peu, puis profiter un peu plus... de la famille, des petits-enfants, puis de la vie en général.
Et Pierre, t'es vraiment gentil de prendre le temps ce soir, mais juste une scène comme c'est passé à Seattle hier, une bagarre d'une équipe dans le vestiaire, dans tes 43 ans de couvrir les équipes, que ce soit les Expos, le Canadien. T'as déjà vu ça ou t'as déjà entendu parler de ça, une bataille interne de même?
On n'a pas été témoin d'une bagarre, mais on a souvent entendu parler d'escarmouche entre deux joueurs. Je sais qu'à l'époque, il y en avait eu une entre Patrick Roy et Matthew Schneider, le défenseur. Mais c'est certain que, comme au baseball, il y en a eu des disputes dans le vestiaire des Expos parce que c'était des caractères très forts. Mais en général, ça se passait derrière les portes closes. Puis les journalistes, on en entendait parler par la bande, comme on dit. Mais d'être témoin sur place, là, j'ai déjà vu... des journalistes se faire bousculer par des joueurs, notamment au baseball. Je pense que c'était un collègue d'une radio anglophone, Jeff Rimmer, qui c'était des violentes prises de bec.
Oui.
Je pense que c'était Pete Rose. J'essaie de me souvenir c'était qui. Mais il y a eu des incidents comme ça. Mais en général, ça se passait quand les portes étaient fermées, juste avant que les journalistes puissent entrer dans le vestiaire.
Hey, Pierre, t'as quand même, en 43 ans, t'en as vu de tous les couleurs. Là, je te vois sur Twitter, t'es très actif sur les réseaux sociaux. Quand je regarde ça, comparé à 1975, le métier de journaliste a changé beaucoup, hein?
Ah, c'est incroyable. J'aime ça d'en parler parce que les jeunes journalistes oublient comment que ça se passait à l'époque. Mais nous, quand j'ai commencé au journal, au milieu des années 70, c'est Jacques Beauchamp qui m'avait engagé. Et on travaillait encore avec des grosses machines à écrire, là, des gros typewriters, des dactylos. Et on dictait nos textes au téléphone quand on était sur la route. Et c'était vraiment... on était très loin de ce qu'on voit aujourd'hui avec les téléphones intelligents. Puis... les MacBooks de ce monde, puis c'est vraiment le métier a changé énormément et avec des avantages et des désavantages, parce qu'à l'époque, je pense que c'était plus facile pour les journalistes d'obtenir des primeurs. La presse écrite, c'était différent. On avait comme accès en tout cas plus facilement aux joueurs, aux athlètes, puis aussi aux dirigeants. Et souvent, on pouvait, un exemple, appeler un confrère américain à Chicago qui couvre les Blackhawks, puis là, il te racontait ce que lui avait entendu de son côté, mais c'était pas mis sur un fil Twitter ou sur Facebook. Donc, par le temps que tu pouvais écrire ton article, c'était publié, mais tu avais un scoop. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que l'information est instantanée, elle se retrouve rapidement sur le fil Twitter. Et donc, des fois, tu vas avoir un scoop pendant finalement 5 minutes, puis tout le monde va se l'accaparer après. Donc, c'est plus du tout la même situation. Mais j'ai pas de problème avec ça. Tout a évolué. Et puis, il y a des très bons côtés avec les téléphones intelligents. Je veux dire, c'est assez extraordinaire quand on veut rejoindre des athlètes. Mais on est toujours impossible d'être en contact. À l'époque, il fallait que tu restes chez vous toute la journée devant ton téléphone pour être sûr de ne pas manquer l'appel d'Éric Aucoin qui était au camp des Expos.
Oui.
Mais c'est vraiment un autre monde. Puis c'est un tourbillon. Je dois admettre que c'est un peu essoufflant de suivre la courbe à laquelle on assiste aujourd'hui, là, parce que ça évolue d'année en année. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça stimulant. Je trouvais que c'était quelque chose de nouveau à expérimenter.
On s'entretient avec Pierre Durocher qui annonce sa retraite du Journal de Montréal, 43 ans de métier. Il y a une chose qui a changé beaucoup, parce qu'avant, vous, lorsque vous étiez dans l'avion de l'équipe, vous étiez près des joueurs, les joueurs pouvaient vous dire aussi, parce que les joueurs lisaient vos articles, pouvaient vous dire quand ils aimaient ça, quand ils n'aimaient pas ça. T'as eu beaucoup d'instances. Évidemment, les gens ont aimé ce que t'as écrit, mais il y a des fois, moi, j'ai déjà entendu une anecdote de Pat Burns qui est parti après toi avec un bâton. Des fois, ils sont pas contents aussi de ce que les journalistes écrivent.
Ah, c'était bien différent à l'époque. S'il y avait une page frontispice du Journal de Montréal que Pat Burns n'aimait pas ou que Serge Chavard, peu importe, ou Jean Perron, il était pas rare qu'on t'appelle à la maison directement pour te dire, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Là? Finalement, il fallait que tu t'expliques. Puis, mais les gens n'étaient pas rancuniers, mais ça arrivait des fois qu'il y avait des titres qui déplaisaient. Dans le cas de Pat, j'avais une bonne relation avec, sauf que il était souvent sur le cas de Stéphane Richer. Puis une fois, j'avais écrit... parce qu'à chaque fois qu'on lui posait des questions sur Stéphane, qui était quand même tout un joueur de hockey, là, on parle d'un marqueur de 50 buts, le dernier marqueur de 50 buts du Canadien. Et Stéphane, Pat était souvent sur son dos. C'était, à ses yeux, c'était peut-être un joueur un peu trop unidimensionnel. Et Pat le lâchait pas. Puis il aimait pas ça qu'on le questionne à son sujet. Puis là, j'avais écrit en quelque part... dans mon texte, vers le troisième paragraphe, que Pat Burns, virgule, qui a tendance à être un peu paranoïaque sur les bords. Là, puis je continue ma phrase, mais Pat, lui, il lisait chaque ligne, puis le lendemain matin, il m'attendait au forum, puis là, je marchais sur le bord de la patinoire, sur le bord de la baie vitrée, puis d'un coup, je regardais mes collègues dans les estrades, puis qui avaient déjà pris place pour regarder l'entraînement, puis là, j'entends un slard dans la baie vitrée, un coup de bâton, là, de toutes ses forces, puis là, Pat Burns... Et devant tous ces joueurs, il avait piqué une colère, me dire que je l'avais traité de fou, mais je l'avais pas traité de fou. J'avais juste dit qu'il était légèrement paranoïaque dans le cas de Stéphane Richer. Mais là, le lendemain, c'était oublié. C'est ça qui était bon à l'époque. Puis, c'est les relations entre joueurs. Patrick Roy a déjà des textes qu'il a vraiment pas aimé de ma part. Mais après ça, c'était oublié. Quand on se voit aujourd'hui, on en rit. Mais c'est certain que les joueurs nous lisaient. Nous lisait, il y avait beaucoup plus de francophones. Si on pense en 93, il y en avait 12 ou 13 dans l'équipe. Donc, les joueurs nous lisaient. Puis ici, les anglophones nous lisaient. Des gens comme, des joueurs comme, je sais pas moi, Bob Gainey, Larry Robinson, Mike McPhee, Brian Scrulin, je peux t'en nommer. C'était tous des gens qui étaient des anglophones, mais qui étaient capables de lire le français puis de nous parler en français de temps en temps, de temps à autre. Donc, c'était une autre relation à cette époque-là. On était très, très, très lus. Puis en même temps, on tissait des liens avec des joueurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Il y a comme une barrière aujourd'hui entre les médias et les athlètes. Est-ce qu'il y avait du bon ou du mauvais là-dedans? Il y avait du bon parce que des fois, le joueur pouvait te donner une information privilégiée. Mais en même temps, quand tu le critiquais, là, il pouvait te dire, ouais, ben, je pensais pas que tu étais comme ça. Ben, là, on leur disait, ben, écoute, là, moi, je fais ma job, là. Si tu joues mal, j'aurais pas écrit que tu joues bien. Fait que, mais c'était un autre monde, mais c'est le fun d'avoir connu toutes les différentes étapes, différentes décennies, parce que on peut comparer puis prendre le bon côté de chaque époque.
En conversation avec Pierre Durocher, qui, malheureusement, annonce sa retraite, 43 ans au Journal de Montréal. Pierre, t'as couvert les Expos de Montréal à partir de 1979. T'as vraiment, là, t'as vécu les plus belles années des Expos. Parle-moi un peu de cette expérience-là.
Ah, c'était extraordinaire. En plus, j'avais la chance. J'ai été chanceux. J'ai couvert les deux sports que j'ai couverts depuis longtemps, c'est le hockey puis le baseball. Et sur des longues périodes, avec toujours le même collègue au hockey, c'était Marc Defoy, et au baseball, c'est Serge Touchette que tu connais bien. Et Touche est un pince sans rire, c'est un gars qui est très drôle, puis on a eu un plaisir fou. Puis il y avait vraiment des personnages à cette époque-là, autant sur la galerie de presse, avec les Jean-Paul Sarrault, puis des gens au coin pour la presse, en tout cas. Et sur le terrain, il y avait des personnages uniques. Là. On pense à Bill Lee qui a joué pour les Expos, qui était tout un personnage, qui était drôle, qui était amusant. Puis ensuite, des grandes vedettes comme Gary Carter et André Dawson, c'est des joueurs qui font partie du temple de la renommée du baseball. Et c'était une époque où les joueurs n'avaient pas la langue dans leur poche. Puis quand ça faisait pas leur bonheur, notamment la négociation de contrat, ils passaient pas par leur agent. Ils appelaient directement chez eux, puis le gars se vidait le cœur. Puis c'était une belle époque. Et le stade olympique, là, ça, on l'a toujours décrié, mais pas au départ. Dans les années 78, 79, 80, 81, 82, ces années-là, là, c'était extraordinaire, l'atmosphère. Je sais que l'autre jour, tu avais comme invité Fernand Lapierre, l'organiste des expos, mais il y avait du fun dans le stade, puis les expos attiraient 2,3 millions de spectateurs par année, puis personne qui se plaignait. C'était spécial, vraiment spécial comme atmosphère. Puis quand le stade olympique est bondé, là, il y en avait du fun dans le stade, puis les joueurs étaient spectaculaires, il y avait des joueurs extraordinaires, puis il y avait tellement des bons gars dans ce temps-là, là. Des gens très, très sains, parce que l'argent n'avait pas commencé à couler à flot là, dans le baseball. Là. Ça commençait un petit peu avec les agents libres, mais tu penses, tu t'en souviens de Woody Freeman? Là,
oui, ben oui, ben oui.
Il était un bon cultivateur de tabac dans son coin de pays aux États-Unis, mais il était tellement simple, là. Il s'assoyait avec nous autres, puis parlait dans l'avion là, comme un vieux chum. Ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à imaginer aujourd'hui parce que t'as un petit peu plus des PME, les athlètes. Hein. Puis il faut pas les blâmer. Ils ont la chance de gagner des bons salaires. Bravo pour eux. Mais le contact, le lien entre le journaliste et l'athlète professionnel, il est plus difficile à établir aujourd'hui.
Pierre, je commence à manquer de temps, malheureusement, mais j'espère que Ron ou Mario, j'imagine que quelqu'un va t'inviter pour pouvoir vraiment te donner plus de temps, parce que des histoires t'en as, mais je veux juste te partager quelque chose que j'ai vécu avec toi, sans que tu le saches un peu, mais je retourne 5 ans en arrière, 2014, avril 2014, premier match des Blue Jays au Stade olympique. La première fois que les Blue Jays nous faisaient ce cadeau-là de venir jouer au Stade olympique. Et je t'ai vu rentrer sur la galerie de presse. Ton nom était là, les noms de Touchette, les noms des anciens étaient là. Tu as vécu quelque chose de spécial, là, le retour, retourner comme ça. Même si c'était juste pour couvrir les matchs du camp d'entraînement, puis c'était les Blue Jays. Il y a quelque chose de spécial qui est arrivé ce moment-là, hein?
Ah, c'est sûr, puis on était tellement contents. Là, ça, c'est sûr que les années ont passé, puis on a encore du plaisir à assister au match de baseball au Stade olympique impliquant les Blue Jays, mais la première fois, c'était magique, parce que ça faisait longtemps, puis le départ des expos, il n'y a personne qui l'a encore digéré, parce que quand tu es un amateur de baseball, c'est dur de penser qu'on a déjà eu une équipe des Ligues majeures à Montréal, une équipe qui a été extraordinaire, qui était la meilleure équipe des majeures en 94 avant le début du conflit de travail et qui a été à un cheveu d'aller à la Série mondiale en 1981. Puis là, tu vois qu'on a perdu ça. Puis là, aujourd'hui, on fait des gros, gros efforts pour essayer de ramener les expos, mais à un prix que je trouve exorbitant, alors qu'à l'époque, c'était... On n'aurait jamais, jamais dû laisser partir les expos, jamais. Peu importe, on aurait dû trouver une solution quand c'était encore possible de le faire. Puis je trouve que de ce côté-là, il y a des regrets à avoir, c'est certain.
Écoute, on aura la chance de se revoir bientôt dans le nouveau stade des expos. Toi, comme retraité, je te paierai une bière et un pretzel, puis on regardera une coupe de manche ensemble.
Ça serait super. Je prends ça en note, Derek.
C'est bon.
J'irai te saluer sa galerie de la presse.
C'est bon, Pierre Durocher. Et je lance un commentaire comme ça, mais il faut que j'aille à la pause. Mais j'imagine que le Canadien qui ne fait pas les séries, puis peut-être une autre année difficile, c'est pas pour ça que tu as décidé que c'était le temps d'accrocher.
Ça n'a pas rapport. Je sais que Jérémy, ton collègue Jérémy, a mentionné ça sur Twitter. Non, non, ça n'a aucun rapport. C'est simplement, quand ça fait 43 ans que tu travailles pour le même employeur, c'est normal, à un moment donné, que tu songes à la retraite, là. Puis de toute façon, je vais rester quand même. Je vais me trouver quelque chose pour me garder occupé. Je suis pas inquiet.
C'est bon.
Mais je veux dire, comme j'ai dit à Marc deux fois dans un commentaire, on a eu la chance de vivre les plus belles années du journaliste sportif au Québec. Là, puis ça, c'était vraiment des époques glorieuses avec les expos, le Canadien, les Jeux olympiques à Montréal. En tout cas, il y a eu tellement d'événements. Les Alouettes qui gagnaient régulièrement.
Ah oui. Merci.
Il y a tellement de beaux souvenirs.
Merci, Pierre. T'es bien gentil, on a pris le temps.
Ça fait plaisir.
Salut, Pierre Durocher qui annonce sa retraite du Journal de Montréal, 43 ans. Ludovic Bourgeois en studio avec nous après ces messages.